Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un événement qui marque l'actualité de la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode dédié à Hack in Paris et à la nuit du hack, un retour qui va nous être fait par Arnaud Souillet.
Bonsoir.
Guillaume Lopez.
Bonsoir.
Et donc pour discuter de ces sujets avec eux, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Hervé Schauer.
Bonsoir.
Jean-François Audenard.
Salut.
Nicolas Prigent.
Salut.
Nicolas Ruff.
Bonsoir.
Et moi-même, Johan Uloa. Alors, Arnaud, Guillaume, HIP, c'était comment ?
Arnaud, tu commences ?
Ouais, je commence. Bonsoir à tous. Alors, comment c'était ? Globalement, c'était très bien, c'était très sympa. Pour faire une petite introduction, donc Hack in Paris, c'était la 5e édition cette année. Comme les autres années, c'est comme la plupart des conférences de sécu, en deux parties. Première partie des trainings sur 3 jours, donc c'était du 15 au 17, et ensuite le 18-19, 2 jours de conférence, suivi le samedi de la nuit du hack.
C'est ça. Très bien, très bien. Bah, le lieu était sympa. Déjà, on était, que ce soit pour Hack in Paris et la nuit du hack, on était à l'Académie Fratellini. C'est vrai que c'était un cadre sympa. Ça faisait un peu petit, je pense, pour la Hack in Paris, parce qu'on était vraiment pas beaucoup. De mémoire de ce qu'on m'a dit, on était 250 personnes pour Hack in Paris et nuit du hack, quasiment 1500 personnes. Donc ça fait une grosse différence quand même en termes de population et de monde sur le site. Après, sur les conférences pour Hack in Paris, c'est vrai qu'il y avait un peu de tout. Il y avait des trucs très bien, il y avait des trucs un peu moins bien. Mais c'était dans l'ensemble.
On a passé un beau moment, quoi.
Oui.
Alors, sur HIP, quels sont les confs qui ont retenu votre attention ?
Alors si je démarre, je pense qu'on doit parler de la keynote, parce que c'était quand même assez particulier. C'était Win Schwarto qui l'a présenté. D'après ce que j'ai pu voir, il fait quasiment que ça, que des keynotes. Le concept était quand même super intéressant, c'était de se dire on va essayer d'appliquer à la cybersécurité d'aujourd'hui des concepts qui proviennent de l'électronique analogique, donc des choses qui ont 30-40 ans. Ça paraît un peu farfelu, mais il y a peut-être deux ou trois choses à garder dans ce qu'il a dit. Commencer un peu à comparer les firewalls des coffres-forts, donc là, on n'était pas forcément d'accord, mais il disait, ce qui existe dans le matériel physique, on a quand même des garanties, on a des certifications qui font que, voilà, on sait qu'un coffre-fort va résister pendant 30 minutes, 1 heure, 2 heures à un incendie. On n'a pas du tout l'équivalent sur la partie cybersécurité aujourd'hui, et par ailleurs, on ne sait pas le mesurer. Donc ça, effectivement, c'est un des problèmes qu'on a. Donc il évoquait deux trois éléments qui pouvaient être intéressants, notamment la possibilité de réduire la bande passante automatiquement dès qu'il y avait un comportement anormal ou une attaque, quelque chose qui faisait référence à une boucle de feedback négative en électronique analogique. Je ne sais pas si ça vous parle. Pour moi, c'est un peu loin et c'était pas trop ma spécialité. Donc voilà, c'était de la théorie de la sécurité de l'information. Moi, je trouvais ça assez rigolo. Pour être franc, j'ai vu que la moitié, c'était un peu tôt le matin, donc je sais pas ce qu'il a dit en premier. J'ai vu que la fin.
T'es déjà arrivé en retard le premier jour de la conférence. Il y avait déjà un bifort.
Non, mais en plus c'était 9h30, mais c'est alors on s'est rapproché les autres années, c'était on l'a pas dit, mais c'était à Disneyland, donc à Marne-la-Vallée. Cette année, l'Académie Fratellini, c'était du côté de Saint-Denis, donc géographiquement c'est un peu plus proche. Néanmoins, en transport, c'est pas la porte à côté non plus, ce qui explique mon petit retard du jeudi matin.
Mais justement, pourquoi est-ce que ça a changé de ce côté-là ? Parce que visiblement, Disneyland c'est plutôt sympa, c'est un endroit assez festif. Il y a une raison particulière pour que ça ait changé ?
Moi, j'ai pas d'informations officielles. Je pense que c'est des raisons budgétaires principalement. Les prix ont augmenté à Disney.
Bah, Disney, c'est très cher quand même en termes de prix. Mm-hmm. Moi, de ce que j'avais entendu. Et après, c'est sûr que t'as une qualité de service beaucoup plus importante. La salle est beaucoup plus grande. Mais après, c'est un peu loin, quoi.
C'est sûr qu'à Disney, c'est pas des bancs en bois. Ils ont mal aux fesses et mal au dos.
Oh, il y en a quand même leur confort ici.
Écoute, j'ai lu cette critique sur Twitter aussi. Il y a quelqu'un qui a dit « Ah, j'étais content de retrouver les sièges de la RATP après ça.
» Ah, c'est vrai qu'au bout d'un moment, sur les bancs, c'était un peu difficile. Hein. Au bout d'un moment, t'étais content de pouvoir te lever et aller ailleurs.
Fallait choisir entre les genoux et le dos.
Mais il y a pas mal de personnes qui se sont mis du coup dans la salle à côté avec des chaises plus confortables pour assister aux conférences, puisque c'était aussi en streaming dans la salle à côté.
Ouais.
Alors, les confs qui vous ont plu?
Je sais pas si Guillaume, y en a une en particulier. Moi, j'ai bien aimé celle qui concernait l'injection de commandes vocales. Je ne sais pas si vous en aviez déjà parlé. Elle a été présentée à STIC, je crois, cette année. Ils l'ont représentée ici. Donc, pour rappel, c'était quand même super intéressant. L'idée, c'est de dire qu'on envoie des ondes dans les kits sans fil des téléphones et on arrive à déclencher Siri sans la volonté de l'utilisateur.
Ah ouais, d'accord. Effectivement, ça c'est un truc qu'on avait vu. Mais juste un truc, enfin, je suis désolé de faire un petit retour sur ce qui a été raconté sur la présentation de Charto, mais dans le cas présent, enfin, là on vient de citer quelque chose qu'on avait un peu vu à STIC à l'instant, mais le rapport avec la RUM de Tiffaine Roman, par exemple, où elle faisait justement un parallèle pour illustrer la sécu, en fait, numérique, celle qu'on connaît, en se basant sur la sécurité physique. Et donc, en fait, ce qu'il faisait Charto, c'est l'inverse, en fait. Ce qu'il partait de la sécurité numérique et il allait vers la sécurité physique, c'est ça? Enfin, il essayait de retrouver des choses dans ce sens-là.
C'est-à-dire, il essayait d'appliquer des concepts d'électronique à la sécurité informatique aujourd'hui.
D'électronique, d'accord, ok. Ouais. D'accord, ok. C'est avec le coup du coffre-fort et tout.
Ce qui a été présenté à STIC, c'était plutôt un jeu de rôle pour sensibiliser les gens. Donc, je sais pas si c'est vraiment dans la même idée, quoi.
Bah ouais, mais enfin, je crois qu'un sous-produit en fait de ce qui avait été présenté, c'était un petit peu justement que ça allait permettre après à des gens de comprendre finalement les concepts qu'on avait enfin, que les gens comprennent mieux les principes de sécurité physique parce que ça nous parle et donc on pouvait faire le parallèle avec la sécurité numérique entre guillemets pour les gens qui connaissaient pas. Mais bon, je regarderai parce que il y a un streaming d'ailleurs ou pas? Enfin, il y a de la vidéo qu'on peut récupérer? Les vidéos sont downloadables de ce qui s'était passé ou pas?
Je ne sais pas. En tout cas, tout a été filmé, ça c'est sûr.
Ouais. D'accord.
Et je ne sais pas.
D'accord. Pardon, fin de ma parenthèse, désolé.
Non, non, pas de souci.
Je suis sur le site de l'année dernière et a priori, il n'y a pas de vidéo. Mais bon, comme c'est pas le même lieu, etc. Ah si, il y a un lien vidéo, pardon. Tout est sur YouTube en fait.
D'accord, ok, super.
Donc on peut supposer que ce sera sur YouTube cette année aussi.
Oui.
Pour la nuit du hack, si tu veux, tu as déjà une vidéo YouTube de 9h où tu as toutes les confs de la journée. Hein. Par contre, il faut scroller au bon endroit pour pouvoir retrouver quelle conférence t'intéresse. Hein.
Quelle est la conf qui t'a le plus plu, Arnaud?
Alors, je pense que c'était une des premières, c'était celle qui parlait de XSS, de Mario Heinrich, je crois, qui est un étudiant qui avait fait une thèse sur le XSS, donc on peut supposer qu'il connaît bien le sujet. C'était assez impressionnant parce que du coup, la conf qu'il faisait, au bout d'une minute, il montrait l'exploitation d'un XSS sur gmail.com, donc c'était quand même assez impressionnant. Et c'était basé, alors c'est pas si simple que ça, il y a quand même de l'interaction utilisateur, c'était basé sur le copier-coller. Donc c'est un concept assez intéressant. Il s'est dit, tiens, est-ce que si je copie-colle quelque chose de malveillant dans une fenêtre d'édition d'un message Gmail, par exemple, je peux exécuter du code? La réponse est oui. Donc c'était pas mal, c'était très détaillé. Il nous a bien expliqué comment il faisait, notamment à partir d'OpenOffice. Il suffisait simplement de mettre du code JavaScript dans le nom de la police, d'éditer un document, de modifier le nom de la police, et ensuite ça pouvait être exécuté par le navigateur car les mécanismes de filtrage qui étaient présents sont pas tout à fait suffisants. Donc les correctifs sont en cours, ils doivent même peut-être être publiés déjà maintenant, mais en tout cas c'est un vecteur assez intéressant, j'ai trouvé.
D'accord. Guillaume, toi?
Moi j'en ai deux que j'ai bien aimé. Je pense qu'en première position je mettrais celle de Nicolas Grégoire sur... Grosso modo, le titre de la conf, c'est Server Side Browsing Considered Harmful. Bon, grosso modo, l'intérêt de cette conf, c'est juste qu'il présente des bugs qu'il a trouvés sur différents sites, par exemple Prezi, Yahoo, Facebook. Donc, en gros, il a participé à des bug bounty, et comme ça, il a pu se faire un peu d'argent. Et surtout, il trouve des vulnérabilités rigolotes, soit des façons de. Sur Prezi, c'est assez pas mal, parce qu'il est allé assez loin. En fait, il a trouvé un moyen de pouvoir lire des fichiers sur le serveur. En gros, il y a une XXE en fait de mémoire, si je dis pas de bêtises. Et au final, après, il a pu accéder à certains fichiers de configuration puisqu'il précise c'est basé sur le cloud d'Amazon. Et il a pu ainsi récupérer des fichiers de conf et ce genre de choses. Et c'est vrai que c'était assez pas mal le déroulé. Bon, il avait déjà présenté ça aussi à Insomniac l'année dernière, mais bon, c'est toujours assez plaisant. Ensuite, la seconde, je sais plus qui, enfin, je me rappelle plus du nom de l'auteur. Le titre, c'était Attacking Secure Communication. Et en fait, donc la personne a présenté un peu, bon, il a parlé un peu de la cryptographie au début en disant que voilà, bon, aujourd'hui, en fait, concrètement, personne fait les choses correctement. Il a dit, ouais, PGP, S/MIME, bon, c'est complexe à utiliser. En vrai, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'utilise. Et du coup, il a regardé des solutions type ProtonMail, Tutanota, etc. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ProtonMail, par exemple. Je sais qu'on en a pas mal parlé l'année dernière, puisqu'ils se vendent comme NSA Proof, vu qu'ils sont basés en Suisse. Donc l'idée c'est que tout est chiffré, il n'y a que l'utilisateur qui peut déchiffrer ses mails, et donc même si la NSA demande l'accès au mail, bah de toute façon ProtonMail peut rien donner. Et ce mec là il a regardé un peu comment ça fonctionnait. Alors déjà ce qui est intéressant pour ProtonMail, c'est qu'il y a deux mots de passe en fait que l'utilisateur doit avoir. Un mot de passe pour s'authentifier en fait sur le webmail, et un autre mot de passe pour déchiffrer. Alors, ce qui était assez rigolo, c'est qu'il soulevait comme problème, c'est que déjà, si on change le second mot de passe, donc celui qui sert à chiffrer et déchiffrer les mails, en fait, on ne peut plus lire ses anciens mails. Ou alors, il faut retenir l'ancien mot de passe qu'on avait avant. Parce que du coup, forcément, c'est lié au mot de passe. Et du coup, il a regardé un peu la sécurité de ProtonMail et il a trouvé des cross-site scripting, cross-site request forgery. Au tout début, il a vu même que le serveur, en fait, divulguer tous les services possibles et inimaginables sur la machine. Donc il a vu du Dell Manage, du VNC, du FTP, du SSH, enfin à poil j'ai envie de dire sur Internet. Quoi. Donc c'est assez rigolo, il en a testé d'autres, Tutanota, il a trouvé aussi des XSS, donc c'est assez similaire à ProtonMail, hein, Tutanota. Et on peut pas se... Enfin, en gros il y a une clé de session statique qui est utilisée et du coup l'utilisateur il peut pas se déconnecter. Donc ça c'est assez rigolo, et au niveau crypto, les mecs ils font un mélange de RSA et AES, du coup c'est un peu bizarre ce qu'ils ont mis en place. Quoi. Voilà, donc je trouvais ça aussi celle-ci assez rigolote.
Et sur la nuit du hack?
Alors sur la nuit du hack, bah, je pense la conf la mieux, en fait c'est la keynote. C'est celle par Guillaume Poupard, là, le directeur de l'ANSI. Alors je ne l'ai pas vu complètement... je sais que j'ai eu des bons retours, enfin les gens ont bien apprécié son discours. Le seul truc bizarre dont il a parlé, c'est la température dans les locaux de l'ANSI. Apparemment, il disait en fonction de l'endroit, on pouvait être à 20 degrés ou 40 degrés. Donc bon, ça c'était assez rigolo de préciser ça dans sa conf. Je sais pas si ça va donner du coup envie aux gens de postuler à l'ANSI.
Non, mais j'avais entendu la même chose. L'immeuble, en fait, ils l'ont désamianté, mais ils l'ont pas vraiment rénové et la clim est complètement erratique.
Moi j'y suis allé que 2-3 fois, mais sur les 3 fois, il y a une fois où effectivement la chaufferie était en panne. Donc je confirme.
Qu'est-ce qu'il a adressé dans sa keynote en fait comme point? Enfin, c'était quoi l'ANSI recrute, candidaté au PACI, etc. Enfin...
Alors, c'était à fond l'ANSI recrute. Hein. On a besoin de mecs
oui,
bien pêchus, c'est important. Voilà, le message il était là. Hein. C'est pas rentré, c'est pas allé au-delà de. Ce genre de message, hein. C'était là vraiment pour recruter. Bon, approche intéressante. Il y avait quelques questions, il y a eu 2 ou 3 questions, dont une sur le côté est-ce que l'ANSI fait le côté offensif. Donc bien évidemment, la réponse était dans le négatif. Nous sommes du côté des gentils, des défenseurs. Bon, moi personnellement, j'ai pas trouvé la keynote particulièrement intéressante, mais j'ai trouvé Guillaume Poupard était plutôt accessible, il arrivait, il n'était pas en costard, il se fondait entre guillemets un peu dans l'environnement, approche pragmatique, plutôt bien quoi.
Le terme proximité, je dirais. Quand même, hein.
Qu'est-ce qu'il y a?
Accompagné par la responsable communication quand même.
Bien sûr, of course.
Mais vous avez écouté les 2 dernières conférences de la journée?
Celle de l'Electrolab et de Earth sur les binaires Windows.
Non, c'est pour juger votre choix de prendre la keynote comme meilleure conf de la nuit du hack.
J'ai pas dit que c'était la meilleure conf, j'ai dit qu'elle était intéressante de par le discours de Poupard. Et puis surtout, qu'il soit venu à la nuit du hack. Enfin, moi, ça m'a surpris qu'il fasse la keynote de cet événement.
Ah, ils étaient sponsors Platinum.
Bah, ils
Oui,
étaient
mais.
sponsors aussi l'année dernière, et pourtant, il n'y a personne de l'ANSI à ma connaissance qui est venu, sauf erreur.
Non, mais
L'année
historiquement.
dernière, à Disney, ils étaient sponsors Platinum déjà? Non,
Je
l'année
crois qu'ils
dernière,
étaient
à Disney, ils
sponsors, mais peut-être
recrutaient
pas
simplement.
Platinum.
Arnaud, selon toi, alors,
Alors moi, je vais
est
pas
la.
pouvoir me prononcer sur la NUVIAC. En fait, au bout de 3 jours de training et 2 jours de conférence, j'ai eu besoin d'un break, donc je suis pas allé le samedi à la NUVIAC. J'ai fait que les 2 jours de Hack in Paris. Donc je délègue totalement à Guillaume.
En
Mais
vrai, sur la NUVIAC, il n'y a pas que les conférences. Enfin, je veux dire, quand on regarde les gens qui y vont, bon, déjà, bien sûr, il y a ceux qui viennent faire le CTF privé-public. Après, il y a pas mal d'autres workshops aussi qui sont organisés en parallèle des conférences. Il y a aussi un stand de recrutement pour justement les entreprises qui sont intéressées pour recruter enfin, des personnes dans le domaine de la sécurité. Donc c'est toute cette ambiance en fait qui est assez rigolote. Enfin, il y a même, ah oui, la NDH Kids. Donc c'était
Oui.
marrant de voir tôt le matin les parents qui ramènent leurs gamins pour faire des dessins de robots, toucher un peu à l'électronique. Donc
Tiens.
c'est toute cette ambiance-là en fait qui, je trouve, est intéressante pour les NUVIAC. C'est vrai que moi personnellement, je viens pas spécialement pour les conférences, mais je viens pour pouvoir rencontrer des gens et l'ambiance de l'événement.
Alors Jeff, justement, la NDH Kids, qu'est-ce qu'ils en ont pensé, tes enfants?
Ah, moi, j'avais amené mes deux garçons, donc 10 et 13 ans. Ah bah, à fond, à fond. Ils en ont reparlé pendant 2 jours derrière. Ils ont, alors, ça a été, bah, ils ont pris le fer à souder, ils ont fait de la soudure de composants électroniques pour des petits montages à base de LED et de petites piles et de NE555, hein, pour ceux… pour qui ça dit quelque chose. Ils ont fait de la programmation Arduino. Ils ont fait de ce que j'ai compris, des sortes de fusées qui à base de mélange de levure chimique et de vinaigre. Ils ont ah mais en fait ils m'ont dit ah ouais et puis les gens qu'est-ce qu'ils expliquaient bien? Enthousiaste, vraiment enthousiaste. Et puis j'ai trouvé que du côté organisation c'était super bien foutu. Moi je suis arrivé. Il était quoi? Il devait être ouais, 9h20, truc de genre là. J'ai droit au billet coupe-fil parce que j'avais des enfants, donc top. Je les ai droppés. Petite enceinte sympathique à l'entrée. Et puis, je les ai récupérés le soir à 18h. Ils étaient tout contents, le top. Donc, vraiment un grand merci. Et ça leur a fait découvrir des choses. Je suis sûr que maintenant, quand ils vont me voir avec un Arduino dans les pattes, ils vont me dire hey, moi aussi, papa. Alors qu'auparavant, il regardait absolument pas les choses.
Ça c'est rigolo, ouais. C'est assez original de pouvoir envoyer ses enfants parce que c'est dans plein d'autres confs en fait quand on y va, bon, on laisse tout le monde à la maison et c'est un peu la misère mais là ça c'est rigolo. Et donc sur les bricolages, enfin il y avait la programmation Arduino, il y avait d'autres programmations ou des choses comme ça ou
Il y avait, de ce que j'ai compris, il y avait de la programmation Arduino, mais c'était pas, ils étaient plus dans le mode pas à programmer en tant que tel. Le programme, de ce que j'ai compris, hein. Le programme il est tout fait, il devait régler quelques paramètres, genre la fréquence
de
pour faire marcher le
clignotement.
buzzer ou du clignotement et compagnie, mais ils se sont familiarisés avec l'Arduino, le breadboard, y mettre ses composants, reconnaître une LED, tout ce genre de choses. Donc j'ai trouvé ça plutôt bien, et en tout cas, eux, ça leur a bien plu, et les explications étaient très claires.
Ouais, c'est rigolo, ouais. Ok. Et justement, enfin, c'est qui les gens qui s'occupent de cette partie-là? Enfin, on sait. Enfin, s'il y a des gens derrière ou pas trop. Enfin, la question c'est comment c'est. Enfin, j'imagine comment c'est organisé ce genre de truc. Il y a des associations derrière ou bien. Enfin,
Ça va,
pour la partie
de
justement.
mémoire, je crois que c'est des étudiants de l'ESIEA
D'accord.
qui étaient derrière,
Ok.
mais bien organisés. J'ai envoyé mon petit mail, j'ai eu le droit à remplir la fiche signalétique, lunettes, pas lunettes, et tous les détails pratiques. Simple et puis très très bien.
D'accord, ok. Oh, bah, c'est rigolo.
Moi, j'ai une petite question. Est-ce que le réseau Wi-Fi, il était aussi hostile que les autres années? Parce que mon souvenir, je crois que la dernière fois que je suis allé à la Nudiac, c'était il y a 3 ans peut-être, c'est qu'il y avait des centaines de personnes avec des cartes Wi-Fi alpha qui faisaient de l'injection de paquets sur le Wi-Fi. Il me semble avoir vu sur Twitter quelqu'un qui utilisait Responder, qui est un outil d'attaque qui fait de l'interception et qui avait récupéré un compte de connexion à un FTP. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça.
Non, bon, en tout cas, il y avait des gens qui avaient des antennes absolument pas discrètes. Donc moi, j'ai même pas testé. Je me suis contenté de mon 4G, puis voilà.
Non, mais tu sais qu'il y a quelques années, déjà il y avait des fausses BTS à la nuit du hack, hein, même quand c'était encore chez Disney.
Mais je crois
Alors,
qu'il y a eu des soucis cette année là-dessus. Hein.
oui, mais de toute
Non,
façon, avec mon tunnel chiffré, c'est bon.
mais de toute façon, dans une conférence de sécurité, il faut partir du principe que le réseau il est hostile, hein, comme dirait Arnaud. Hein. Enfin, je veux dire, quand tu branches ton PC ou même tu utilises ton téléphone, c'est à tes risques et périls. Mais c'est vrai que
Non, mais
cette année, il y a
surtout le
des gens qui
Wi-Fi.
se sont plaints.
Attends, quand même beaucoup plus le Wi-Fi que la fausse BTS qui va usurper mon certificat sur mon tunnel chiffré.
Ouais, enfin, il y a des gens quand même cette année qui ont eu des soucis avec leur smartphone, hein, en tout cas. Qui disaient, ouais, tiens, j'ai plus de réseau, ou ça me demande d'installer des certificats bizarres.
Un réseau de conf de sécu, c'est hostile, quoi, c'est tout. N'allez pas à DEFCON avec un laptop pas patché qui fait du HTTP.
Ah oui, mais
Heureusement,
si on peut pas
HTTPS,
utiliser le
rien.
Wi-Fi ni les réseaux mobiles, on devient un peu coupé du monde quand même.
Tu peux, mais il faut juste le faire proprement.
Non, il y a une autre solution, c'est de le faire avec un ordinateur vide.
Ou avec un Chromebook.
Oui.
Ce qui pourrait être pas mal aussi, c'est de diffuser l'adresse MAC de la passerelle. Je pense que ça pourrait être sympa, ça, d'avoir l'adresse MAC de la passerelle pour pouvoir la mettre en dur sur la machine, non?
C'est quelque chose qui est fait à la Brucon, par exemple, je crois, si mes souvenirs sont exacts.
Bah, sinon, ce qu'on fait aussi simplement, c'est qu'on va à la conf et on profite de la conf. On écoute, on va aux ateliers, et puis voilà, au pire, on prend les notes sur son ordi, on le connecte à rien, et puis voilà. Non, j'ai vu ça, c'est rigolo. Ça, je sais pas si vous l'avez vu, ce truc-là aussi qui tournait sur Twitter. Mais il y a des gens qui se mettent à mettre des petits paniers à l'entrée quand ils font des soirées chez eux. Et en fait, tout le monde doit poser son mobile là, genre passer la soirée avec les gens qui sont là, quoi. Et je pense que dans les confs, ce serait pas plus bête à la limite. Enfin, tant pis, bon, on prend des notes sans se connecter à Internet. On n'a pas forcément tout besoin de vérifier tout le temps, en permanence. Mais bon, ça, c'est mon avis de vieux con. Hein. Moi, j'aimerais bien qu'on cause des autres événements annexes parce que ça, enfin, des autres trucs qu'il y avait autour, et enfin, et les rencontres et tout ce qui s'est passé dans. Enfin, un peu en partie off, entre guillemets, ça me plairait bien. Parce que bon, il y avait le truc pour les enfants, ça a l'air cool, mais il y avait donc d'autres choses. Il y avait les workshops, il y avait les tutos, il y avait des choses comme ça. J'aimerais bien qu'on parle un peu de ça.
Bah, les workshops c'était assez classique, hein. Il y a toujours, enfin, on va dire, il y a toujours un noyau dur de workshops qui sont assez identiques. Donc le fameux workshop lockpicking, donc qui est animé par, je sais pas si on peut dire le nom de la société, mais
Alexandre Trifot.
ouais, par Alexandre Trifot et sa clique. Donc ça a toujours autant de succès parce que bon, à chaque fois, enfin, t'as 3-4 rangées de personnes qui se battent pour accéder aux serrures et aux kits de crochetage. Il y avait aussi un workshop intéressant sur Radar 2 qui était pas trop mal. On a quelqu'un ici aussi là qui a fait un workshop. Enfin, Johan, du coup.
Ouais.
Sur quel thème?
C'était des démonstrations d'exploits de vulnérabilité. En fait, ce que j'ai fait, moi, c'était de la sensibilisation. C'était montrer, en fait, c'était une démonstration d'attaque ciblée. Sur ma partie aussi, j'expliquais comment des orientations pour limiter les risques. Et puis, Guillaume, lui, il a mis à disposition sa plateforme pour pouvoir faire en sorte que les gens puissent le refaire par eux-mêmes.
Mais c'est un petit peu offensif, ça, non? Enfin, c'est pour sécuriser son propre réseau, c'est ça?
Alors, ça utilise bien sûr des méthodes, on va dire, offensives, mais le but, c'est de faire de la sensibilisation. Et puis, comme je te le disais, moi, j'ai expliqué aussi comment différentes orientations pour limiter les risques.
Donc ça se passe comment, ces workshops? Il y a beaucoup de monde ou enfin, les gens ils viennent, ils partent
Alors là,
ou...
c'était sympa, en fait. Ça se passait dans le cirque, et donc c'est une sorte de très grand amphi. Et chacun avait un casque avec une fréquence audio. Il y avait les trois workshops qui se passaient en simultané. Chacun suivait son workshop sur sa fréquence. Donc, ils ont pu comme ça, en fait, faire tourner les trois workshops en même temps. Je trouvais l'idée très sympa.
Ouais, c'est marrant. Ouais, sinon, il y avait un bug bounty aussi. J'ai vu ça sur Twitter.
Alors, il y en avait plusieurs.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, qui a soumis au bug bounty? Combien de bugs ont été trouvés? Enfin, ben, je sais qu'il y avait Denial, mais en fait, je crois qu'ils avaient mis un Damn Vulnerable Web App
exactement
derrière Denial, et le but, c'était d'exploiter, quoi.
Voilà, alors ça, j'ai discuté un petit peu avec eux. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis, ils ont créé différents niveaux de sécurité. Donc, en gros, le premier niveau, il y avait quasiment rien d'activé. Le deuxième, il y avait certains modules de sécurité d'activer. Troisième, etc. À chaque fois, en fait, ils montaient comme ça le niveau de sécurité. Et le but, c'était de faire en sorte de bypasser. C'est la sécurité mise en place et donc de pouvoir exploiter des vulnérabilités de DWA.
Et donc des gens ont réussi à passer le niveau 3, ça s'est passé comment?
Je sais pas, en revanche je sais pas si des gens sont passés ou pas.
Il y a des choses qui ont été trouvées, j'ai des collègues qui ont participé, mais qui m'ont dit effectivement qu'il y avait plusieurs niveaux, et du coup, pour recevoir quelque chose, il fallait le faire à chaque niveau. Donc voilà, je sais pas s'ils sont allés au bout, mais j'en ai discuté à midi avec des collègues, et effectivement, il y a des vulnérabilités qui ont été identifiées, donc je pense que c'est tout bénef pour eux, puisqu'ils vont pouvoir améliorer leurs produits.
Pour pas cher.
Exactement.
Pour beaucoup moins cher qu'un CSPN ou un audit de sécurité.
Effectivement.
Ouais, tu sais, le CSPN, c'est différent parce qu'à la fin, tu récupères un tampon. Là, tu peux pas mettre un tampon sur ton produit. J'ai survécu à la nuit du hack 2015. Enfin.
Il y en a qui essayent.
Et donc, sinon, les side information, comment on pourrait dire en français?
Le rapport d'étonnement.
Voilà, quel est votre rapport d'étonnement? Merci pour cette formule très élégante.
À ton service.
En gros,
absence de parking.
Ah oui, ça, effectivement, c'est primordial.
Ok. Mais à part ça, je veux dire, c'était quand même en plein cœur de la zone. Personne ne s'est fait dépouiller de son matériel.
Pas ma connaissance.
Ouais, je n'ai pas entendu ça. Ouais.
Il y avait énormément de vigiles. Hein.
Mais c'est marrant parce que ça avait l'air quand même vachement dense comme événement. Enfin, il y a plein de choses qui se passent en parallèle, en fait. Enfin, visiblement, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de trucs en même temps. Et ouais, tout à fait, ouais. et donc justement, il y a pas eu des petits trucs à côté supplémentaires, des choses. Enfin, moi franchement, j'entends ça, ça a l'air foisonnant, ça a l'air hyper enthousiasmant, et comme d'habitude, j'ai pas pu y aller. Mais allez, vendez-moi le truc, hein, je veux en savoir plus sur les petits trucs qui ont pu se passer à côté.
Bah, par exemple, je vais parler de notre retour à nos limites sécu, et le on a eu vraiment de très très bons feedbacks. D'ailleurs, je voudrais remercier les gens qui nous ont fait des retours. C'était vraiment très très sympa. Quelques critiques positives en nous disant bah c'est sympa, mais le son vraiment, vous essayez de progresser là-dessus. Alors c'est vrai qu'il va falloir qu'on s'attache à progresser sur le son, mais donc on nous a donné des pistes, Mobile, des choses comme ça. Mais bon, je pense que de toute façon, on sera toujours tributaire de la qualité du sonore de la personne qui est au bout. Et puis, on nous a demandé aussi de faire un peu plus court.
Oui.
Voilà. Fail.
Mais en tout cas, nos nouveaux autocollants nos limites sécu ont plu, on en a distribué et ça c'est aussi c'est une belle réussite. Hein, et donc maintenant, j'espère que la prochaine fois qu'on va à une conf sécurité, il faut qu'on regarde combien de gars ont notre bel autocollant sur leur PC.
Et combien de filles surtout. Enfin, chacun ses préoccupations, mais...
Il n'y avait pas beaucoup de filles, hein, la Ligue du Hack, hein, quand même. C'est quand même assez masculin et particulièrement jeune.
Oui, c'est surtout des jeunes personnes. Mais je trouvais qu'il y avait quand même... c'était pas non plus des airs de filles, quoi. Enfin, par rapport à d'autres confs où... je sais pas, par exemple, tu vois, au stick, il y a vraiment moins de filles au stick, par exemple, qu'à la nuit du Hack, quoi.
Ouais, il y avait quand même pas mal de filles.
Hein. Voilà. Hervé, il a regardé. Il a...
Mais et alors, hein, Hervé n'a tout le temps pas changé de PC. Mais ça devrait bientôt venir.
Alors, c'est pour ça que j'ai. C'est pour ça que j'ai conservé mon autocollant No Limit Sécu. Je le réserve pour mon nouveau PC. C'est que simplement mon ancien PC, finalement, la NSA le contrôle. Donc, autant en changer et avoir une machine qui n'est pas en voie d'extinction.
Ah, mais t'attends la sortie de Windows 10 le mois prochain, je te comprends.
Oui, non, après, je te rassure. Il va acheter un Mac.
Non.
Pour aller avec l'iPad et l'iPhone, il faut un Mac.
Je reste sur Debian.
Tu peux installer des biens sur ton Mac. Hein.
Et sinon, Guillaume, tu faisais gagner des cadeaux, il me semble, aussi, toi, à la nuit du hack sur le stand de ta société. Comment ça se passait?
Je pensais qu'on pouvait pas faire de publicité. Dans le stand de recrutement, alors.
Ouais.
C'est organisé par YesWeHack, en fait, donc un portail d'offres d'emploi dans le domaine de la sécurité. Et donc, au cœur de la nuit du hack, il propose, donc là c'est pareil, c'était dans un chapiteau, il y avait différentes entreprises, hein, il y avait l'ANSSI aussi d'ailleurs, hein, qui recrutait. Et c'est vrai que nous, t'as les choses classiques, hein, chaque stand propose des goodies, des balles, des stylos, des gâteaux. C'est vrai que nous, on avait fait un petit challenge assez simpliste avec du code PHP, avec des failles à trouver, et puis après on a fait un petit tirage au sort pour faire gagner un drone par hôte. D'ailleurs, c'est quelqu'un de chez toi, Arnaud, qui l'a gagné.
Oui, c'est pour ça que je posais la question, parce que j'étais étonné. J'avais peur que ce soit en échange d'un CV, en fait, c'est pour ça que je posais la question.
Ah non, il m'a pas parlé qu'il voulait changer de société, mais c'est vrai qu'il a fait une bonne pub de notre société, j'étais assez surpris.
Et ben voilà, il s'en est passé des choses en off. Et il y avait également le CTF dont on n'a pas parlé, public et privé. Je sais pas, je crois qu'il y a des collègues à moi qui ont participé. Moi, comme déjà évoqué, j'étais pas là. Je crois qu'il y a des collègues à toi aussi, Guillaume, qui ont participé.
Tu veux dire qu'il a fonctionné cette année?
Le public, oui. L'autre, je ne sais pas.
Le privé, je crois qu'il y a eu des soucis. Hein. Parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui a réussi à récupérer les flags d'une autre équipe et valider avant tout le monde. Enfin, je ne sais plus exactement les détails, mais en gros, il y a une équipe qui a réussi à prendre énormément d'avance via les autres parce qu'il y a eu un problème de VLAN ou je ne sais pas quoi. Du coup, c'est vrai que sur le CTF privé, je ne sais pas si c'est un peu biaisé les résultats, mais en tout cas, il y a eu un souci, ouais.
Juste une question public-privé, c'est parce qu'il y en a un qui est ouvert à tout le monde et puis l'autre qui est sur sélection ou
Exactement. Il y a des préqualifications qui ont lieu et il y a une dizaine d'équipes, hein, je crois, qui viennent d'assez loin, comme chaque année, des Coréens, des Allemands.
Tu sais, en fait, CTF, maintenant, c'est un métier à temps plein. En particulier, si tu vas sur les CTF coréens, ils ont des dizaines de milliers d'euros de prix, enfin, en cash, et les équipes se préparent. Enfin, moi, j'ai vu ne serait-ce qu'un Insomniac, ça reste un tout petit CTF, mais qui est quand même qualifiant pour CTFtime.org, donc ça compte... Si tu fais la compétition mondiale SCTF, et les mecs, ils viennent avec leur machine à café, enfin, ils s'installent, ils débobinent et rallongent, ils installent leur capsule de machine à café, ils ont les recharges d'eau distillée, etc. Enfin, c'est hallucinant. Et les mecs, il y a une équipe qui était venue de Pologne, ils avaient mis 18 heures de bus pour venir, quoi.
Vache.
Tu vois à quel point ils sont motivés, quoi.
Effectivement.
Donc, en conclusion, cet événement incontournable.
Bah, disons qu'au niveau français, je pense que oui, c'est clairement incontournable. Il y a relativement peu d'événements, je pense, au niveau français. Celui-là, c'est quand même un des plus sérieux. Et par ailleurs, la Nuit du Hack, c'est le plus gros événement, hein, je pense. Je sais pas combien il y avait de personnes, aux alentours de 1500, j'imagine, Guillaume.
C'est ce qu'on m'a dit, ouais, c'était 1500 personnes. Après, bon, peut-être pas tout le monde en même temps, mais 1500 personnes, ouais.
1500, c'est clairement le plus gros événement français. Et au niveau européen, c'est pas mal non plus, je pense.
Mais c'est surtout parce que les inscriptions au STIC sont très limitées.
Ah ben, bravo.
C'est pas limité, c'est faut être organisé, pouvoir réussir à acheter ses places, c'est tout.
Merci Guillaume, merci.
Bon, en tout cas, c'était vraiment un super événement, bien organisé. On a passé de très très bons moments et on sera certainement ravis d'y retourner l'année prochaine. On espère que cet épisode vous aura intéressé et on vous dit à très très bientôt pour un nouveau podcast. Salut!
Ciao. À bientôt!
Salut! Salut!